Elle était une fois une jolie princesse qui en avait assez d'être désignée uniquement par sa beauté. Une princesse qui voulait être écoutée et défendre ses droits qui avaient trop longtemps été bafoués. Alors un jour, cette princesse quitta sa tour, appela à elle ses sœurs et ses adelphes et s'engagea pour que plus jamais les femmes ne soient méprisées. Bienvenue sur Radio G dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vous nous suivez sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr où vous pouvez d'ailleurs nous écrire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mon acolyte et ma copine. Elle se distingue par sa franchise et son style vestimentaire toujours travaillé, c'est Emeline. Bonjour Emeline, comment ça va? Pardon, je t'ai pas allumé ton micro. Comment ça va?
Ça va super et toi? Okay.
Trop bien, je suis un peu stressée, c'est ok. Je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle heure de papotage. Et on commence très fort parce qu'au sommaire de cette émission, on vous parle musique avec la chanteuse franco-coréenne Miki. Connaissez-vous Adrienne Bolland, la première femme à avoir traversé par avion la Cordillère des Andes? Non? Eh bien, restez avec nous alors. On vous présente également Peau d'âme, d'Aude Zegelmeyer, dans le nouveau point littéraire de Léonie, qui, si je ne me trompe pas, sera le dernier depuis l'Italie avant son grand retour en France, et je suis trop contente! Parce que l'estime de soi est super important pour la santé mentale et l'équilibre, mais que les standards de beauté sont globalement inatteignables, il est donc parfois très difficile de se trouver jolie et d'avoir confiance en soi. On en discute en fin d'émission, alors restez avec nous. Et dans chaque émission, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles, ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Et pour cette émission, j'ai eu envie d'inviter une femme qui a eu 1000 vies en une. Une femme qui s'est battue toute sa vie pour donner le meilleur à ses deux enfants, qui a galéré et qui a subi les coups durs de la vie, mais qui a toujours su rester forte. On reçoit aujourd'hui Catherine, ma maman. Bonjour maman, comment ça va?
Bonjour ma chérie, ça fait bizarre, mais ça va bien.
Pas trop stressée d'être avec nous sur le plateau?
Non, pas du tout.
Trop bien. N'hésite pas à te rapprocher bien du micro quand tu nous réponds.
Ok.
Vous êtes sur Radio G, 100.5 FM, pendant une heure où on vous accompagne pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. Mais avant tout ça, je voudrais qu'on revienne sur le débat de la dernière émission. Pour rappel, ou pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé sexualité avec Anna et Cassandra. On a parlé de plein de choses, de porno, de masturbation, de sexe oral et de consentement, mais on a oublié plein d'autres choses. Et c'est justement ce que nous a fait remarquer Crystal, une de nos auditrices qui nous écoute depuis Limoges. On lui dit bonjour et on lui fait un gros bisou.
Coucou Crystal.
Elle a relevé le fait qu'on n'avait pas parlé de protection et de contraception. Alors autour de la table, on va discuter un petit peu de ça. Est-ce que vous connaissez des moyens de contraception? Emeline.
Je pense qu'il y a un peu les classiques, déjà juste les préservatifs,
ouais.
Que ce soit ceux masculins et féminins bien sûr.
Ouais.
Et il y a aussi la pilule ou ouais, les trucs comme ça. Je sais qu'il y a aussi le stérilet.
Ouais.
Voilà.
Ok. Est-ce que maman, t'as envie de compléter un petit peu si t'as des idées de complète?
Les implants.
Exactement. Autre chose?
Après, moi, je te dirais, j'ai pas d'idée là, je m'attendais pas à la question.
C'est ok, y a pas de souci. On a déjà fait un bon tour, effectivement. Il reste aussi le patch qui se colle sur la peau. Il y a également l'anneau vaginal que je connaissais pas du tout avant de faire ces petites recherches. Ouais. C'est juste un anneau en fait qui se met au fond du vagin qu'on garde 3 semaines, puis après on l'enlève. Il y a les règles et puis on en met un nouveau. Voilà, ça peut être une solution. Et là, sinon, on parlait de moyens de contraception pour ne pas tomber enceinte, mais il y a aussi les protections contre les IST. Et là, on parle uniquement du préservatif externe et interne, et également de la digue dentaire. Alors la digue dentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pellicule appliquée sur la vulve ou l'anus qui sert de barrière entre la bouche et les organes. Et donc ces deux, le préservatif et la digue dentaire, ce sont les deux seuls moyens de contraception qui protègent des IST, et c'est super important, donc n'hésitez pas à vous en servir et à vous renseigner. De toute façon, pour toutes les questions sur la contraception, rapprochez-vous d'un professionnel de santé, du planning familial, de la Maison Olympe ou des Noxambules, bref, il y a ce qu'il faut en termes de ressources à Angers et aux alentours pour bien s'informer. J'évoquais la digue dentaire pour protéger lors du sexe oral, je voudrais justement qu'on revienne dessus. C'est une pratique qui est très courante et qui est absolument normale, mais qui nécessite aussi une protection parce que les IST se transmettent aussi par la bouche, donc on fait attention à soi et on se protège. Et il y a deux semaines, du coup, on était globalement toutes d'accord autour de la table sur le fait que c'est pas vraiment une pratique qui nous plaît. Et si c'est important que tout le monde ait en tête qu'il ne faut jamais se forcer à quoi que ce soit et qu'il est totalement ok de ne pas avoir envie de faire certaines pratiques, c'est aussi important de rappeler qu'il ne faut pas culpabiliser si vous faites ces mêmes pratiques. L'essentiel, c'est de toujours faire ce qui nous plaît, dans nos limites et dans les limites de son ou ses partenaires. Ne jamais se forcer et ne jamais forcer qui que ce soit, c'est la base du consentement et c'est super important. Donc autour de la table et auditorice, écoutez-vous, respectez les autres et faites-vous kiffer. Merci à vous deux pour cet échange. Je pense que ce rappel était important et encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de structures spécialisées sur la question de santé sexuelle. Nous partons à présent à la découverte de l'univers musical de Rosalia, présenté par Anna.
Au programme du Point Culture aujourd'hui, on parle d'un mix entre peinture et musique et d'une chanteuse pop électro reconnue comme Plante Industrie. Alors pourtant qu'elle sort du lot selon moi, on en parle tout de suite sur Elle était une fois. Avez-vous déjà remarqué, et j'ai l'impression en disant ça que c'est le début d'un médiocre podcast, l'univers artistique de Rosalia? Si vous vous plongez bien dedans et que votre connaissance artistique n'est pas limitée à Picasso, bien que j'ai sorti là le pire exemple, alors vous avez sûrement dû vous rendre compte que beaucoup de ses clips et covers d'albums étaient en réalité des clins d'œil à des artistes plus ou moins connus. Par exemple, sur sa pochette d'album Motomami, où Rosalia réside nue avec seul un casque de moto pour l'habiller. Est-ce que sa posture ne vous intriguerait pas ? Cachant ses parties les plus intimes avec ses mains, Rosalia fait ici référence à la naissance de Vénus, peinture de Sandro Botticelli, où la déesse Vénus, émerge de la mer sur un coquillage dans la même posture. Cette position, où la femme se couvre comme symbole d'intimité, est beaucoup réutilisée dans les clips de Rosalia quand on y repense, notamment dans Bergain, en référence à la Madeleine pénitente de Titienne, ou encore dans Presso, où des oranges viennent cacher la poitrine de la chanteuse. Petit clin d'œil à Julio Romero de Torres avec son œuvre Naranjas Limones. Mais alors pourquoi cette position récurrente refait beaucoup surface dans la direction artistique de Rosalia ? Évidemment, cela ne reflète avant tout que d'un point de vue personnel, mais je trouvais bon de vous le partager afin de voir ce que vous en pensiez. À travers ces postures, je trouve que l'on retrouve un geste universel de vulnérabilité féminine. En couvrant son corps avec ses mains ou avec des objets symboliques, Rosalia performatise un geste archétypal, celui de la femme qui se protège du regard. Chez elle, ce geste n'est pas simplement pudique, il devient une affirmation de contrôle. Elle choisit quand et comment elle se dévoile. C'est une vulnérabilité mise en scène, un espace d'intimité repris en main. Je vous ai pas ressorti tous les exemples qui ont pu être trouvés, mais la direction artistique de Rosalia en vaut vraiment le détour. D'autant plus que celle-ci reste un débat constant, certains pensant que la reprise d'œuvres leur enlève leur âme, d'autres affirmant redonner vie à des tableaux sous une forme moderne. À vous d'en décider maintenant. De son vrai nom, Micaela Elena Duplet, Miki est une chanteuse franco-coréenne et vous avez sûrement entendu parler d'elle depuis l'année dernière. Perso, je l'ai connue sous son ancien pseudo Kimi Duplizel avec son morceau Misunderstood que j'adorais mais qui n'est malheureusement plus dispo sur les plateformes. Et quand j'ai redécouvert cet artiste, ça m'a fait un choc de voir à quel point elle, qui était encore inconnue à l'époque, avait explosé avec son célèbre tube Échec et Mat. Et ce qui m'a d'autant plus surprise, c'est la façon dont l'artiste a été prise dans une polémique soudaine dès son ascension. Il faut savoir que Miki est très bien entourée dans l'industrie de la musique, avec des artistes plus ou moins connus, ce qui peut jouer en faveur de son succès. Mais pourtant, la chanteuse ne plaît pas forcément dans le sens où c'est une chanteuse indé qui fait part d'une grande reconnaissance à l'heure d'aujourd'hui. Tout s'explique à travers les sponsors, les placements de produits et les nombreux clips sans budget sur un seul et même son qui la font propulser. On reproche aussi à Miki de faire un RP adolescente. Par ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait Orelsan jusqu'à ses 40 ans et pour autant, lui, on lui salue sa perfo. La question pourquoi ne se pose même plus, étant donné qu'on a la réponse, c'est un homme. No hate envers Orelsan, évidemment, j'adore son parcours musical, mais revient ici le problème d'inégalité des genres. Alors on en pense quoi ? Miki, c'est quand même quelqu'un qui développe son profil artistique depuis plusieurs années. Elle n'est pas partie de rien, car depuis petite, elle étudie et joue de la musique, ce qui fait qu'elle baigne depuis sa tendre enfance dans un milieu musical bien complet. Il est vrai qu'elle a été récupérée par son label actuel. Son style musical a bien changé, ce qui peut faire penser qu'elle compose seulement pour les thunes, d'où son étiquette d'industrie plante. Pourtant, il y a ce truc chez elle que je trouve vraiment cool, où elle casse les codes en étalant sous un genre nouveau des punchlines sur ses traumas, ses expériences amoureuses ou encore sa vie familiale. Elle a ce timbre un peu endormi et pourtant que je trouve révolutionnaire, changeant. Qu'elle soit payée des milliers pour produire ou non, sa musique reste unique et sort du lot. La chanteuse a d'ailleurs sorti il y a environ un mois un nouvel album. Et bon, ça serait mentir si je vous disais que je l'ai écouté et que je vous le recommande. Mais après cette petite description que j'ai pu vous faire sur son identité musicale, écouter et analyser son dernier projet pourrait vous permettre de vous faire un avis sur le sujet. Et si jusqu'à présent son nom vous était inconnu, vous faire une idée de qui est Mickey. Le Point Culture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles actus culturelles. Ça m'a fait vachement plaisir de vous partager tout ça. J'espère que ça aura pu attiser votre curiosité. Vous êtes sur Radio G, 101.5 FM ou sur radio-g.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique.
Merci Anna et Léonie, c'est après. Ça s'est enchaîné, c'est ok, ça arrive, c'est le risque du métier. Merci beaucoup Anna, comme je le disais. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique et j'ai hâte de découvrir ça. À présent, avant qu'on retrouve Léonie plus tard, on va passer à Emeline qui va nous présenter un nouveau portrait très intéressant. Vous vous souvenez de Adrienne Bolland, cette aviatrice et résistante française qui a marqué l'histoire ? C'est le portrait de la semaine que tu nous présentes, Emeline.
Elle était une fois Adrienne Bolland qui, malgré tous les obstacles, accomplit un exploit que quiconque auparavant n'accomplit. Elle devance ses prédécesseurs masculins en leur prouvant qu'elle n'est pas seulement une femme, mais une aviatrice de renom. Adrienne Bolland est assez vite intéressée par l'aviation lorsque la situation financière de sa famille se complique après la mort de son père. Elle obtient son brevet en janvier 1920. Son talent et sa jeunesse est remarqué par René Gaudron, qui fera d'elle un moyen de gagner en popularité. Moins bien payé que ses collègues, il lui oblige tout de même de suivre ses indications. Il lui demande alors de faire sa première grande traversée, qui n'est que la Manche depuis la France, ce qui est une première. En 1921, lors d'une réunion, elle et René Gaudron entendent parler d'une traversée qui a mal tourné, celle de la Cordillère des Andes, la plus grande chaîne de montagnes qui traverse l'Amérique latine. C'est alors que son employeur, avec tout son enthousiasme, décide qu'Adrienne fera la traversée. Le jour arriva, le 1er avril 1920, elle décolle de Mendoza en Argentine. Le défi semble insurmontable, à peine préparée, munie de son unique outil, son pifomètre comme elle le dit si bien. Même son avion ne se présente pas comme le meilleur atout. Pour les connaisseurs, il s'agit d'un Caudron G3. L'avion, il est trop léger pour supporter les vents et ne vole pas assez haut du tout. Il peut être suspendu qu'à 3800 mètres d'altitude, alors que la plupart des montagnes dépassent largement cette hauteur. Elle traverse par le chemin le plus direct, mais pas le plus sûr. Les vents sont tellement violents qu'elle fait du surplace pour limiter les dégâts. Elle continue sa route. Lorsqu'elle arrive près d'un lac, elle ne connaissait pas du tout cette chaîne de montagnes, mais savait de quel lac il s'agissait. Avant son départ, une habitante lui prévient que quand elle verra le lac en forme d'huître, elle ne devrait pas tourner à droite mais à gauche. En tournant dans ce sens, elle évitera le sort de ses prédécesseurs. Et c'est ce qu'Adrienne fera. Elle se faufile entre les montagnes et après 4 heures au-dessus de montagnes inconnues pour elle, elle atterrit enfin au Chili, accueillie par les habitants et le président du Chili de l'époque. Et pour l'anecdote, le président français aussi devait être là, mais il pensait que c'était un 1er avril. 4 heures qui font d'elle la première femme à avoir traversé la Cordillère des Andes, et cela avec grand succès. En France comme en Argentine, elle est une vraie héroïne, une aviatrice de renom. Elle est aussi connue pour ses convictions, notamment sa part dans la résistance avec son mari, où elle est chargée de repérer les arrivées des rescapés, ainsi que dans la lutte pour les droits des femmes, notamment le droit de vote. Donc voilà, je vous ai raconté l'histoire d'Adrienne Bolland, peu connue du grand public aujourd'hui, le temps de quelques minutes.
Waouh! Merci beaucoup Emeline pour ce nouveau portrait. Je trouve ça trop chouette d'avoir un nouveau nom, parce que quand on pense aviatrice, on pense souvent à Amelia Earhart. Donc je trouve ça trop chouette de découvrir d'autres femmes qui étaient dans l'aviation, et d'autant plus que celui-ci est français. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Merci beaucoup et j'ai trop hâte de découvrir une nouvelle fois tes nouveaux portraits que nous découvrirons dans les prochaines émissions. En attendant, nous allons marquer une pause musicale. Et pour cette première musique, j'ai demandé à ma petite sœur qui est actuellement dans le public de nous choisir une chanson de son choix. Et elle a choisi Congolese sous BBL de la Boss Lady originale Théodora. Donc je vous laisse écouter et on se retrouve dans un instant sur Radio G, soit en Pensin FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute.
Baby boo, tu sais, je veux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je veux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolese, baby aimerait sa bille. Sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolese, baby, aimerait sa pille, bière. Moi, si sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Et oui, oui, mon cul est gros. Donc y'a des dadis qui ont trop les crocs. Des raclis prêtes à quitter leur vieux raclos. Je l'ai tué puissant suite, telle une réoclue. Ils m'ont pris, m'ont dit, j'aime encore moins la police. Sexy ghetto, appelle-moi freaky mal poli. Si je choisis une bague, son diamant est bien poli. Donc mon chou à la barre, elle n'est jamais ramollie. Baby aimerait sa pi-pierre. Moi si sous Cali je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolese, baby aimerait sa pi-pierre. Moi si sous Cali je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolese, baby aimerait sa pi-pierre. Cali, pollen, jaune, maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vue la veille.
Toujours avec nous sur le 101.5 FM dans Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines. Emeline, ça va toujours ?
Ça va toujours.
Toujours avec ma maman Catherine. Maman, ça va toujours ?
Ça va bien, merci.
Et bah, trop bien. Parce que justement, elle a accepté d'être sur notre plateau. Et j'espère qu'elle va pas en profiter pour vous raconter mes secrets les plus honteux.
Je sais pas.
C'est notre invitée de la semaine. Bonjour Catherine, maman Catherine, je sais pas comment je dois t'appeler ici. Donc
bah, fais comme d'habitude, maman, ça sera
c'est très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par une petite contextualisation tranquille pour un peu apprendre à te connaître. Parce que jusqu'ici, j'ai pas arrêté de répéter que t'étais ma maman, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu fais autre que ça? Justement, c'est ma question. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie à part être une maman?
Alors, à part être une maman, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais là actuellement, je suis animatrice périscolaire.
Ok, très bien. Et puisqu'une personne ne se définit pas uniquement par sa profession ou son statut familial, est-ce que, je sais pas, tu vas nous dire un petit truc sur toi, est-ce que t'as des rêves dans la vie ou t'as un rêve en ce moment, quelque chose que t'aimerais obtenir, que t'aimerais réaliser?
Ah, alors j'en ai plusieurs.
Et bah, tu nous dis.
Alors, premier rêve, partir d'Angers.
Ouais, tu aimerais, alors, ouais.
Bon, j'aime bien Angers, mais j'ai plus rien à faire ici.
C'est ok.
Moi, ma retraite, ce serait le bord de mer.
Ok.
Donc, partir à la mer.
Ouais.
Avec ta sœur.
Oui.
Et puis, sinon, oui, reprendre l'artisanat, mes passions.
Ouais.
Et éventuellement vivre si c'était possible. Donc voilà.
Ce que faut préciser à ceux qui nous écoutent, tu es très créative et tu touches un peu à tout, tu fais plein de choses, notamment du scrapbooking et du des travaux manuels. Faut que j'y arrive.
Oui.
Bref, t'es très douée et on peut que t'encourager dans ce sens.
Merci.
Pour terminer cette petite contextualisation et parce que je pense que tout le monde se pose la question, est-ce que j'ai été une enfant chiante?
Pas chiante.
Ok.
Non.
Margot dans le public, elle hoche la tête un peu trop pour dire si.
Alors après, tes relations avec ta sœur, c'est différent.
C'est autre chose. Ok. Nous sommes dans Elle était une fois, une émission qui vise à mettre les femmes dans la lumière qu'elles méritent. Et aujourd'hui, je voulais mettre en avant le plus vieux métier du monde, celui d'être mère. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des enfants? Est-ce que tu peux nous dire?
Ah bah parce que j'adore.
T'adores?
J'adore les enfants, les miens, mais oui. Ceux des autres c'est plus compliqué.
Ok.
Mais non, je voulais être maman parce que en fait j'avais ce modèle de ma maman avec nous et ces relations qu'on avait ensemble.
Ok.
Donc j'avais envie de vivre la même chose.
D'accord, je vois. Tu nous as eu, Margot et moi, respectivement 33 et 38 ans, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Ce qu'on peut considérer comme tard, entre guillemets.
Oui.
Est-ce que l'âge à laquelle tu nous as eu a eu un impact pour toi ou ça aurait absolument rien changé si tu nous avais eu plus tôt, genre à 25 ans, par exemple?
Je pense que ça a quand même un impact.
Ouais, en quoi?
Je pense que quand on a des enfants tôt, on les élève différemment, je pense.
Ok.
Je pense qu'on a une maturité différente, on a des envies différentes.
Mm-hmm.
Peut-être que si j'avais eu 25 ans, je vous aurais plus emmené dans des parcs d'attractions, des trucs comme ça.
Ok.
Je dirais que voilà, c'est sur ce contexte-là que je parle.
Ok.
On fait peut-être moins de choses quand on est plus âgé.
Ok, d'accord. Mais dans l'ensemble...
Mais j'avais quand même assez de patience, malgré tout.
C'est vrai qu'avec l'âge, on dit souvent qu'on perd la patience. Ok. T'es devenue maman au début des années 2000. Est-ce que tu penses que les choses sont différentes aujourd'hui pour une femme de 33 ans qui devient mère en 2026 ou une femme tout court qui devient mère en 2026? Est-ce que tu penses que les choses sont différentes que ce que toi, t'as pu vivre?
Oui.
En quoi?
Eh ben, les inquiétudes de... d'aujourd'hui. Et je t'en ai parlé il y a pas longtemps en plus. Je t'ai dit que si j'avais su tout ce qui vous attendait dans l'avenir, j'aurais peut-être réfléchi avant de faire des enfants. Parce que faut pas penser qu'à soi.
Mm-hmm.
Alors c'est compliqué.
Parce ouais.
Nos enfants, on a envie de les voir grandir dans un milieu sécurisé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'ils aient un avenir, sauf que là, vu ce qui se passe autour de nous, c'est compliqué. Donc, j'espère que, là, je vois, en tout cas, je suis fière parce que je vois mes enfants qui s'en sortent bien pour l'instant, et j'espère que ça va continuer, quoi. Mais le contexte, est compliqué.
Tu veux dire le contexte géopolitique, climatique et tout ça ?
Climatique, géopolitique, tout, oui.
Ouais, ok. Oui. C'est effectivement une grosse inquiétude et effectivement il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui choisissent de ne pas faire d'enfants en partie à cause de ça.
Oui.
Emeline, si tu as une question pour notre invitée, t'hésite pas, comme d'habitude, je reviens vers toi dans un instant. Maman, et le rôle de mère, c'est sacrément important et loin d'être évident, c'est pas facile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, tu dirais?
Le plus difficile pour moi, c'est de pas toujours pouvoir avoir les réponses à vos questions.
C'est-à-dire?
Je suis pas devin sur l'avenir. Mm-hmm. Vous aviez certainement des inquiétudes. Rassurer au premier chagrin d'amour, c'est compliqué aussi, parce qu'on a beau dire des phrases qui rassurent, vous vivez votre chagrin d'amour quand même, donc on se sent un petit peu impuissant. Mais voilà quoi.
Ouais, tu dirais le fait qu'il n'y ait pas de mode d'emploi, c'est le plus difficile.
C'est compliqué.
Ouais, tu te sens démuni.
On se sent démuni souvent, oui, dans plusieurs occasions. Des difficultés sur par exemple, les enfants qui sont harcelés à l'école.
Mm-hmm.
Le harcèlement, c'est très difficile à gérer en tant que maman.
Okay.
Surtout en tant que maman solo.
Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais tu t'es séparée de notre papa quand j'avais moi 7 ans, donc il y a plusieurs années maintenant, et du coup tu nous as élevés de ton côté, enfin, même si le père était présent, tu nous as élevés toi toute seule.
Voilà.
Ouais, ok, c'est ça qu'il faut préciser pour contextualiser aux
donc auditeurs. C'est là que c'est plus compliqué aussi.
Effectivement, ça rentre en compte. Mais si tu devais retenir qu'une chose de ta maternité, positive ou négative, peu importe, qu'est-ce que tu retiendrais ?
La maternité ?
De ton rôle de mère.
D'accord, parce que la maternité,
pas,
c'est pas
encore autre chose. Pas ton accouchement, mais de ton rôle de mère.
Ouais, mon rôle de mère, je dirais que j'ai essayé de vous inculquer le respect et tout un tas de valeurs que j'avais parce que j'avais moi-même été éduquée comme ça. Ce qui me rassure, c'est que je vois que vous êtes des filles équilibrées. Donc, je me dis que j'ai pas trop raté à ce niveau-là. J'ai pris du plaisir à le faire. Et puis, même s'il y a eu des difficultés, c'est que du bonheur d'avoir des enfants.
Ouais, ce que tu retiendrais, c'est surtout le bonheur, finalement.
Le bonheur, oui. Le partage, les discussions qu'on a jusqu'à pas d'heure. Et puis toutes les choses qu'on, puis tout l'amour qu'on peut se donner.
Mmh. Et tu trouves que c'est plus difficile dans le rôle de mère, dans l'histoire de la mère, c'est plus difficile de gérer quand les enfants sont en bas âge ou quand les enfants s'approchent de l'adolescence, l'âge adulte.
Ah, petit enfant, petit problème. Grands enfants, grand problème. Okay. Et ça, je le dis vraiment. C'est exactement ça. Les petits, bon bah voilà, ça se casse la figure. Il y a la bobologie, il y a les choses comme ça, les vomitos, etc. Je vais en passer. Après, l'adolescence, c'est plus compliqué parce qu'un enfant qui rentre dans l'adolescence, il se cherche. C'est pas toujours facile. Mm-hmm. Et puis bah après, je te dis le harcèlement, l'école, tout ça, faut gérer. Et puis pouvoir nourrir nos enfants aussi, parce que ça fait partie du lot.
C'est vrai.
Mmh. Et des fois, il y a des difficultés selon ce qu'on fait, selon ce qu'on a comme revenu, etc. Mmh. C'est un peu compliqué. Et du coup, les enfants, ils le subissent, malheureusement. Et ça, on n'a pas envie.
Évidemment. Est-ce que tu dirais qu'être mère, c'est en opposition à être une femme, ou est-ce que pour toi, c'est la continuité ?
Alors, ça dépend, parce qu'il y a des femmes qui sont que mères.
Ok.
Effectivement. Moi, je dirais que ma maman était plus maman que femme.
C'est pour ça que je te pose la question, parce que je t'ai souvent entendu dire ça.
Oui.
Et du coup, je voulais qu'on revienne dessus.
Voilà, parce qu'elle était très, très... Après, elle avait 5 enfants, hein, c'est différent.
Oui.
Maintenant, moi, je dirais que être maman, ça n'empêche pas d'être une femme à part entière.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Après, c'est la femme qui décide elle-même de ce qu'elle veut faire de sa vie.
Oui, c'est trouver une sorte d'équilibre.
On peut trouver un équilibre.
Ok, très bien. Emeline, je reviens vers toi. Est-ce que tu as une petite question pour notre invitée ?
Oui, j'ai une toute petite question.
Ok.
Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre rôle de mère ?
Qu'est-ce qui m'a plus plu dans ma vie de mère ? Alors ça...
Tu as posé une colle.
Qu'est-ce qui m'a plus plu ? J'en sais rien en fait, c'est ce partage, cet amour que je pouvais donner à mes enfants et l'amour qui me rendait en contrepartie. Et puis c'est un challenge en fait, hein, d'être une maman, de se dire on accomplit quelque chose de quand même... difficile parce qu'on a leur petite vie entre nos mains, donc c'est une belle mission, voilà.
Ok, et ben c'est intéressant.
Ouais.
De nouveau, nous sommes dans Elle était une fois, l'émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toi qui as grandi dans les années 80-90, est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'était d'être une femme à cette époque ?
Oh là là,
vaste question.
Alors, c'était... très bien, dans un sens où j'avais beaucoup de liberté.
Ok.
Maintenant, avec du recul, je me dis qu'on a quand même subi beaucoup de machisme.
Sans blague.
Et je m'en rendais pas compte à l'époque. Ouais. C'est ça qui est terrible.
Bah oui. Mmh.
Mais aujourd'hui, je m'en rends compte.
Oui.
Voilà.
Parce que les choses changent.
Choses changent. Ouais. Mais si tu veux, on le vivait. Et on rageait, hein, on râlait de temps en temps aussi, quand même, à notre époque. Mais mais pas autant qu'aujourd'hui. Et je trouve que c'est une belle évolution qui se fait là.
Ok, trop bien. Tu préchouettes un peu mes questions et c'est trop bien. Question peut-être pas facile maintenant, mais j'aimerais comparer un petit peu. Pour toi, c'est quoi le féminisme ou du moins, c'est quoi être féministe pour toi?
Eh ben, c'est défendre la cause des femmes. Mm-hmm. Et s'impliquer là-dedans, beaucoup.
Ouais.
Maintenant, c'est vrai que moi, je suis d'une génération qui n'a pas été active à ce niveau-là.
Okay.
Donc, je suis contente de voir que j'ai une de mes filles, en tout cas, qui s'acharne à ça.
Oui.
Parce que c'est une bonne cause. Et je suis l'émission et j'aime bien les programmes que vous mettez en place parce que ça permet aux gens d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui se passe. Et puis, même hormis l'émission, hein, je dirais qu'il y a de plus en plus sur les réseaux des gens qui commencent à parler. Mm-hmm. Même au gouvernement, donc je trouve que ça avance et ça me fait plaisir.
On entend souvent le « c'était mieux avant » pour plein de sujets différents, mais toi qui as connu le « avant MeToo », qu'est-ce que t'en penses ?
Alors le « avant MeToo », eh ben, je dirais que on parlait pas assez des violences faites aux femmes.
Ouais.
Et ça, c'est dommage parce que en fait, on n'avait même pas... On savait même pas s'il y a une femme qui mourait sous les coups de son mari, quoi.
Ouais.
C'était des choses qui passaient à l'as.
Mm-hmm.
Donc aujourd'hui, on a une transparence là-dessus.
Ouais.
Donc je dirais que l'avant MeToo, servait pas à grand chose.
Ok.
À ce niveau-là. En tout
que MeToo a bien changé les choses.
Et MeToo a bien changé les
Et
choses.
Et ça t'a marqué, toi ?
Eh ben, ça me marque maintenant.
Ok.
Si tu veux.
Mais au moment de MeToo, est-ce que tu t'es dit waouh, c'est un truc de ouf ?
Je me suis dit waouh, c'est bien.
Ok.
Voilà, c'est bien, ça va avancer.
Ok.
Après, je savais pas jusqu'où ça allait aller.
Ah, évidemment.
Voilà. Donc, plus ça va, plus les choses avancent, plus les langues se délient.
Ouais.
Et ça, c'est important.
Bah, c'est
ça,
vrai que...
ça aide à ça, en fait, à délier les langues.
Ouais, bah, ça a été un gros, gros changement. Voilà. Ça, c'est une évidence. Mm. Une dernière question maintenant. Selon moi, le féminisme, c'est plein d'autres choses, mais c'est aussi de la sororité. Alors, si tu avais un mot ou un conseil à donner à une jeune maman, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais de faire selon son intuition.
Ouais.
Et de ne pas écouter les autres.
Ok.
Voilà, parce que en fait, être maman, c'est un feeling.
Ouais.
Personnel, mm-hmm. qui a pas de mode d'emploi, mm-hmm. comme je l'ai dit. Et il y a des erreurs, effectivement, on en fait toutes. On essaye d'élever nos enfants comme on peut, on les aime de tout notre cœur. On fait des erreurs, ça, mais il faut pas s'empêcher d'avoir des enfants parce qu'on va faire des erreurs,
ouais.
parce que ça leur sert aussi pour grandir.
Okay.
Voilà, donc je leur dis bon courage, mais allez-y.
Ok, c'est trop bien. Bah merci beaucoup maman pour cet échange.
Bah de rien.
C'était très chouette de te recevoir sur notre plateau.
Ça m'a fait plaisir.
Un peu surréaliste aussi parce que comme je me suis décidée un peu à la dernière minute, j'ai un peu de mal à réaliser, mais ouais. C'est ok. Comment ça va toi maintenant que l'interview est passée ?
Ah bah moi ça va, ça allait dès le début de toute façon.
Et là tout se passe bien.
Tout se passe bien.
Tu kiffes ton moment ?
Ouais, impeccable.
Bah trop bien. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et surtout, merci d'être ma maman et de m'aider à devenir la femme que je suis.
Je t'aime.
Moi aussi. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale, puis nous reviendrons dans quelques instants avec une réécriture d'un conte rempli de magie et de danger. Puis nous discuterons d'un vaste sujet, comment se trouver jolie face aux standards de beauté. Mais avant tout ça, je vous propose d'écouter Rage de Ebony, que j'ai découvert récemment en scrollant sur les réseaux. Ancienne candidate de la Starac, Ebony a plein de choses à nous dire et personnellement, je suis plus que prête à l'écouter. Je vous laisse écouter et on se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute, pas tout de suite, ça s'est pas lancé. Là, ça va se lancer. Vous êtes toujours avec nous dans Elle était une fois sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr et je suis toujours avec ma copine Emeline et ma maman Catherine. Nous partons à présent pour un royaume magique où une jeune princesse devrait se battre pour son trône et sa liberté. C'est tout de suite avec Léonie. Bonjour Léonie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire de Elle était une fois. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un livre incroyable. Je veux dire, quand le roman il est dédicacé, je cite, à tous les hommes qu'il faudrait mieux dévorer, on sait qu'on va être sur du lourd. Ce dont je veux vous parler, c'est du premier tome de la duologie Peau d'âme de l'autrice française Aude Ziegelmeyer, qui s'écrit Ziegelmeyer. Ce premier tome s'appelle Les Lilas du Roi et a été publié en 2025 dans la maison d'édition Gulfstream. Comme son nom le laisse imaginer, on est ici sur une réécriture du célèbre conte de Peau d'âne, que l'on connaît bien en France grâce à la version de Charles Perrault de la fin du XVIIe siècle, mais également grâce au film de Jacques Demy sorti en 1970. Et dans cette adaptation livresque, pas question de mettre de côté la violence du conte original. Blanche d'Ivray, la fille du roi, grandit entourée de richesses. Il faut dire qu'avoir un âne enchanté qui produit l'or à volonté, ça aide. Mais tout comme cette âne, elle se sent prisonnière de ce château duquel elle n'est jamais sortie. Quand son père annonce qu'il va se remarier, elle comprend qu'il ne fera pas d'elle son héritière. Ce dont elle ne s'aperçoit pas, c'est de la folie qui monte peu à peu dans les yeux de son père et qui va le pousser à faire un choix monstrueux. De l'autre côté, dans une tour du palais, vit une fée, mais pas n'importe laquelle. Enfermée pendant des années pour avoir refusé de faire un don au roi, elle qui pensait qu'il avait déjà tout ce dont il avait besoin, elle attend patiemment l'heure de sa vengeance. Et elle a le pressentiment que la princesse Blanche pourrait bien l'aider à l'accomplir, qu'elle le veuille ou non. Ici, on est dans un récit sombre où se mélangent parfaitement le cruel et le merveilleux. L'émancipation de Blanche se fait au travers de sa monstruosité, et la jeune princesse se retrouve forcée à faire face aux parts les plus sombres d'elle-même et à tout ce qu'elle a dû réprimer pendant des années. C'est violent, c'est poétique et c'est surtout très touchant. Parce qu'au travers de l'histoire de Blanche, c'est toute une révolte féministe qui transparaît. Et je vais pas vous mentir, c'est super satisfaisant de la voir se venger des hommes qui l'ont fait souffrir. Oh, et il y a quelque chose à propos de ce livre que je dois absolument mentionner. C'est purement superficiel, mais qu'est-ce qu'il est beau! On retrouve d'ailleurs à l'intérieur des illustrations juste sublimes, dont certaines ont été faites par l'autrice qui est également illustratrice. Alors si vous souhaitez vous plonger dans un récit de fantasy sombre et tragique, rempli de femmes vengeresses et très joliment écrit, je vous conseille Les Lilas du Roi, le premier tome de la duologie Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer. Quant à moi, je pars me plonger dans ma bibliothèque à la recherche de nouvelles pépites féministes. Ciao!
Merci beaucoup Léonie pour cette nouvelle découverte. J'avais vu beaucoup de personnes parler de cette œuvre sur les réseaux sociaux, mais ça m'avait pas intriguée plus que ça. Mais là, franchement, tu viens de susciter ma curiosité, donc je le rajouterai à ma liste. L'heure est venue à présent de discuter d'un sujet pas forcément facile, encore moins à l'ère des réseaux sociaux et des filtres Snap. Comment se trouver jolie face aux standards de beauté ? Pour préparer ce débat, j'ai voulu me renseigner un petit peu sur ces fameux critères de beauté, notamment ceux que nous connaissons en France actuellement, parce qu'il faut rappeler que la beauté, c'est subjective et ça dépend beaucoup de la culture. On n'a donc pas les mêmes critères de beauté en France qu'au Japon ou au Chili, par exemple, et c'est normal. Et pendant mes recherches, je suis tombée sur le merveilleux site du docteur Mailleux, pratiquant l'esthétique médicale et laser, et je vous laisse imaginer le type de discours que j'ai rencontré. Toutefois, une chose intéressante que j'ai pu relever et que j'avais d'ailleurs croisée dans d'autres revues, c'est que les standards de beauté s'appuieraient inconsciemment sur une approche darwinienne de reproduction. Donc en fait, dans la logique primaire, un peu, une personne attractive pourrait plus facilement séduire et donc se reproduire, ce qui est un peu la base de toutes les espèces, qu'elles soient animales ou humaines, parce qu'en fait, on est des animaux. Ainsi, la valorisation des corps minces montre une femme qui prend soin d'elle et qui est en bonne santé, mais lors des époques où il était difficile de se nourrir, les formes rondes étaient, je cite le docteur Mailleux, plébiscitées car une femme avec des réserves paraissait plus sûre pour la reproduction. Bon, on est d'accord que la formulation laisse clairement à désirer, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre plutôt bien que les critères de beauté évoluent en fonction des pays, des époques et des circonstances, et que c'est quelque chose qu'on peut nous-mêmes remarquer un petit peu, parce qu'au début des années 2000, la mode, elle était plutôt vers les sourcils fins et au maquillage chargé, alors qu'aujourd'hui, on valorise plutôt le naturel. Enfin, l'idée fictive et misogyne du naturel, hein, coucou les clean girls et les tradwives. Autour de la table, selon vous, quels sont les critères de beauté aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns? Emeline.
Bah, en vrai, je pense qu'il y a un peu ce truc d'être toujours...
Rapproche-toi bien du micro, s'il te plaît.
Je pense qu'il y a aussi, le fait d'être mince.
Ouais.
Et je pense surtout au skinny talk.
Oui.
Parce que, c'est sur TikTok, il y a eu des trends qui visent à être hyper mince, quitte à vraiment, genre, limite, ne pas manger. Enfin, vraiment, c'est hyper grave.
Ouais.
Donc, vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment ça que... Je pense aussi à le critère de beauté au niveau du visage, genre le fait d'avoir une peau lisse, genre limite une peau de bébé.
Ouais.
Donc voilà.
Maman, est-ce que tu as des idées de critères de beauté dans les standards?
Alors moi, je dirais qu'il faudrait arrêter les filtres.
C'est pas la question.
Non, mais en fait, c'est ça. Non, mais je dis que en fait, les jeunes filles voient que des belles choses sur les réseaux et elles essaient de se comparer. Et moi, je trouve que c'est pas du tout naturel.
Oui.
Donc voilà, moi, le critère de beauté pour moi, je suis obsolète en fait. Parce que tous les termes que vous employez là aujourd'hui, j'entends, je les comprends pas.
Oui, non, mais ça c'est normal.
Voilà, mais pour moi, le critère de beauté, c'est oui, bah tout le monde dit qu'il faut être mince, limite anorexique, et je trouve ça un peu trop dommage.
Ouais. Donc vous relevez surtout la minceur des corps. Tu parlais, Emeline, de la police. Il y a aussi le visage fin. Ça, on le relève souvent. Les traits du visage fin, un nez bien dessiné, des lèvres bien dessinées, une mâchoire stylisée. La poitrine, avoir de jolies formes mais pas trop, hein, faut que ce soit bien proportionné. Je vois aussi les cheveux lisses ou joliment ondulés ou bouclés parce que faut pas que ça aille dans tous les sens. Donc en vrai, c'est des critères qui sont très racistes sur les bords, hein, plus que sur les bords. Hein. Mais donc en vrai, c'est des critères qui sont surtout pas du tout représentatifs de la majorité de la population en fait. Et je rappelle quand même que on parlait du poids, de la taille. Donc en fait, les femmes en moyenne elles font du 40-42, donc on est très loin du 34-36 mis en avant par les mannequins. C'est juste irréaliste. Et donc forcément, c'est hyper dur de se construire en tant que femme et d'avoir confiance en soi quand on ne correspond pas aux standards de beauté qui sont tant vantés et tant mis en avant. Et je sais que pour ma part, je me suis jamais trouvée grosse, et ça c'est une chance dont je suis consciente, mais à une période j'étais presque en sous-poids, au point qu'au collège on me surnommait Ficello, et c'est notamment quand j'ai commencé à avoir de la poitrine que c'était difficile, parce que j'avais des petits seins, et donc à 15 ans, quand tes copines font du bonnet C ou D, et que toi tu peines à atteindre le bonnet B, bah c'est pas évident. Autre exemple, j'ai longtemps été très complexée par mes dents parce qu'elles n'étaient pas droites du tout, à tel point que je m'empêchais de sourire parce que ce qu'on voit à la télé, dans les magazines, c'est des dents parfaitement blanches et alignées. Ça aussi, c'est pas réaliste. Est-ce que vous aussi, autour de la table, vous avez eu des complexes à cause de ces critères de beauté qui sont inatteignables ou pas tant, ça vous a pas tellement impacté? Emeline.
Alors oui, je me souviens que j'étais un peu complexée par mes jambes à une époque parce que les trouvais trop grasses, trop grosses et tout. Mais après, avec le temps, j'ai commencé à complètement zapper que c'était comme ça. Du coup, au final, c'est pas vraiment plus un complexe que ça. Enfin, je m'aime bien comme ça et voilà. Et je sais qu'il y a aussi les cheveux.
Ouais.
Tu parlais justement du fait que dans les critères, souvent cheveux lisses ou un petit peu ondulés. Mais c'est vrai que c'était plus quand j'étais petite, je voulais souvent avoir des cheveux lisses, carrés et tout.
Ouais.
Alors que, non, mes cheveux crépus, maintenant je les aime bien, je les accepte et tout. Je fais des coupes de cheveux avec mes cheveux naturels. Et c'est plus un problème pour moi non plus.
Ok, et tu fais de très jolies coiffures si je peux me permettre. Maman, est-ce que toi t'as eu des complexes à cause de ces critères de beauté inatteignables ou pas tant?
Alors oui, quand j'étais ado.
Ouais, bah comme beaucoup, hein,
voilà,
je pense.
Voilà, à l'école, on subit les moqueries.
Bah oui.
Donc comme toi, hein, la poitrine avec mes copines.
Bah ouais.
Voilà. Après, je dirais qu'à l'époque, par contre, de mes premiers rendez-vous, il n'y avait pas.
Ah ouais? Ok.
Non. Non, les hommes nous regardaient comme on était, en fait.
Ok.
Ils n'exigeaient pas plus de... Voilà. Mais c'est après.
Ah, tu trouves que maintenant ça compte plus ?
Ouais, j'ai l'impression.
Ok, bah, c'est intéressant.
J'ai l'impression, après, voilà.
Oui, mais c'est ton impression, c'est ton avis et je trouve que c'est intéressant. Parler des critères de beauté et dire que ça nous a impacté parfois très négativement, ça montre vraiment que l'estime de soi, c'est hyper important et que le développement est pour le développement et la santé mentale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même pu expérimenter il y a 2 ans parce que faut savoir que je fais de l'eczéma chronique depuis quasiment ma naissance. Alors, ça se voit ou pas, ça dépend des crises, mais justement, il y a 2 ans, j'ai vécu la plus grosse crise de ma vie. Tout mon corps était recouvert à environ 70% de plaques rouges et suintantes. C'était horrible. Et je vous parle même pas de mon visage. Ça a duré qu'une semaine, fort heureusement, mais je peux vous dire que ça a été la semaine la plus difficile mentalement. Parce qu'honnêtement, je pensais pas faire plus attention que ça à mon apparence. Et bah, MDR, vraiment, avec gros majuscules et beaucoup de R. Hein, parce que franchement, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'estime de soi. Parce qu'au fond, c'est ça, finalement. C'est surtout la manière dont on se perçoit nous-mêmes qui compte. Le monde entier pourra nous dire qu'on est magnifique. Si on n'y croit pas, bah, c'est mort. Donc autour de la table, qu'est-ce qu'on peut faire pour accepter notre physique tel qu'il est et pour qu'on apprenne à s'aimer, tout simplement? Est-ce que vous avez un peu des idées, Emeline?
Bah, déjà, je pense que pour s'accepter, faut qu'on se dise et qu'on comprenne aussi que, bah, on est comme on est nous-mêmes.
Ouais.
On peut pas ressembler vraiment copier-coller à des stars ou à des mannequins.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça aussi qui fait notre beauté. On est beau dans notre individualité.
Ouais.
Et je pense aussi que c'est important d'avoir des représentants. Enfin, même si on se ressemble pas tous, mais c'est important d'avoir des représentations, que ce soit dans les films, dans les dessins animés,
ouais,
de personnes qui ont des critères. Enfin, des caractéristiques physiques qui nous ressemblent pour se dire on n'est pas seul comme ça, quoi.
Mmh. Et toi, maman, est-ce que tu as des idées un peu pour qu'on apprenne à s'aimer et qu'on soit plus sympa envers nous-mêmes?
Eh ben, la méditation, les filles.
Ok.
En fait, non, mais moi, je pense que si vous vous aimez,
ouais,
vraiment,
ouais,
acceptez-vous comme vous êtes.
Mmh.
Et parce que toute femme a une beauté, voilà. Et si elle s'aime elle-même, eh ben elle va dégager une beauté naturelle.
Mmh.
Et les gens les trouveront belles.
Oui, mais là, c'est la difficulté, c'est de réussir à trouver des choses à aimer.
Est-ce que c'est vraiment le physique sur lequel on doit s'attacher?
Ah bah ça, c'est une autre question.
Voilà.
Effectivement.
C'est aimez-vous déjà et les autres vous aimeront pour ce que vous dégagez.
Mmh.
Donc après, le physique, je pense qu'il peut passer derrière.
C'est vrai, c'est pas faux. Après, ce qui est compliqué aussi, surtout à l'adolescence, hein, finalement, c'est comme on l'a relevé, nos plus gros complexes, nos plus grosses difficultés, elles étaient souvent quand on était plus jeune, parce qu'on est les plus fragiles, on est en construction, et donc le physique, ça compte à ce moment-là. Et donc, comment réussir à s'aimer et à prendre confiance en soi? Et ben moi, j'ai trouvé une petite astuce parce que j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé un petit exercice qui peut aider. Alors ça va pas résoudre tous vos problèmes, hein, je suis pas magicienne, mais ça peut aider un petit peu. L'idée, c'est de trouver chaque jour 3 à 5 petites choses qu'on aime chez soi, parce qu'on se focalise souvent sur ce qu'on aime pas, quasiment toujours en fait. On voit nos complexes et les zones qui nous plaisent pas, mais et si on pensait à ce qu'on aime, parce que finalement on s'y attarde pas trop. Donc je vous propose autour de la table qu'on se prête au jeu. Nous aussi, on va chacune citer 3 choses qu'on aime chez nous. Alors je vais commencer, comme ça je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Personnellement, j'aime ma bouche, je trouve qu'elle est bien dessinée, j'aime bien mes yeux et j'aime bien mes clavicules. J'aime bien, voilà, je trouve qu'elles sont jolies et je les ai bien agrémentées parce que je me suis tatouée à cet endroit-là et du coup je trouve que c'est particulièrement joli. Voilà. Emeline, est-ce que tu as des idées de 3 choses que tu aimes bien chez toi?
Ouais, j'en ai, parce qu'en vrai j'ai plus que 3, mais
c'est ok. C'est bien. 3 et c'est trop bien si t'en as plus.
J'aime aussi mes lèvres. En vrai, je trouve qu'elles sont bien dessinées aussi. J'aime bien mes yeux, mm-hmm, mes cheveux.
Ouais.
Et je m'arrête là, mais la liste est longue.
Ah, j'aime trop ça. J'aime trop. Et toi, maman, est-ce que tu peux nous citer 3 choses que t'aimes bien chez toi?
Alors, moi, à mon âge.
Ok.
À mon âge, je dirais que j'aime bien mes cheveux.
Ouais.
Hein, parce qu'ils sont restés longs. Donc, ça, mm-hmm, c'est plutôt pas mal. J'aime bien mes yeux.
Ouais.
Voilà. Ma bouche aussi.
Ok. Ça fait 3, tu peux t'arrêter là.
Ouais,
si tu veux.
Mais il y a d'autres choses, donc je rassure tout le monde, il peut y avoir encore plus de choses.
Ben, c'est vrai que on a tendance souvent avoir moins de représentation de femmes plus mûres. Et ça, on le remarque souvent dans le cinéma, et c'est assez dénoncé. On dit que les actrices ont une date de péremption, malheureusement, et qu'à partir d'un certain âge, on ne le voit plus, ou alors elles n'obtiennent plus beaucoup de rôles. C'est un truc que tu relèves, toi aussi, en tant que femme, du coup, plus âgée que
oui,
nous.
Oui, ouais. Oui. On n'existe plus à partir d'un certain âge, donc j'en profite encore, parce que je n'ai pas passé cet âge-là. Maintenant, je dirais que je m'en fiche un peu parce que moi je vis pour moi d'abord et puis mais malheureusement c'est le cas, on est moins visible et plus on va vieillir et plus on va devenir invisible.
Ouais. Et c'est pas évident du coup, puisqu'il y a très peu de représentations, d'accepter de vieillir, parce que ça aussi c'est une grande question. Accepter de vieillir, c'est accepter de voir son corps changer et de voir aussi s'affaiblir peut-être. Donc c'est pas évident. Toi, comment tu le vis ça ?
Eh bien, pour l'instant, mon corps change effectivement, mais j'en suis pas encore au point de désespoir. Donc, je sais pas comment je le vivrai. Il faudra me poser la question dans quelques années, parce que là.
Après, je te pose là parce que si je peux le dire, t'as la cinquantaine.
Oui.
Donc moi, qui ai 23 ans, on n'est pas à un stade pareil.
La ménopause change les corps.
Ok. Hein.
Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y en a qui s'entretiennent. Moi, je fais pas de sport. Hein. Je pourrais aussi me muscler, voilà. Mais je fais pas plus d'efforts que ça. Donc, faut que j'assume ce que je fais.
Ok.
Voilà.
C'est une belle chose. Enfin, en mots à retenir, essayer de s'apprécier, de s'aimer. Emeline, qu'est-ce qui t'a aidé à te faire aimer ? Puisque là, tu nous as dit que tu avais une belle liste de choses que tu aimais bien. Qu'est-ce qui t'a aidé à construire cette liste ?
Bah, en vrai, je sais même pas. Je pense que c'est juste, je sais pas, j'aime bien.
Ok, c'est juste comme ça, j'ai pas de...
Ouais.
Ok, bah c'est ok de pas avoir d'idée. L'idée, bah voilà, si ça peut vous aider ce petit exercice, vous pouvez vous retrouver les trois mêmes choses chaque jour, hein, c'est ok, mais au moins vous vous focaliserez sur du positif, c'est important. Et je vous souhaite de prendre confiance en vous, de vous aimer, voilà, c'est important, trouver des petites astuces s'il le faut. Et voilà, et on apprend ensemble, toutes ensemble, à faire face à ça parce que c'est pas évident et ça, on en est toutes conscientes. Merci beaucoup pour cet échange à vous deux. C'était trop chouette de pouvoir discuter avec vous et j'espère que on a pu aider certaines personnes. Comme d'habitude, auditeurs, si vous avez des réactions ou si vous voulez discuter avec nous, envoyez-nous un message sur notre Instagram euf-radio-g. Merci à l'équipe d'aujourd'hui, merci Anna, merci Emeline, merci Léonie et merci Maïalène. Et bien sûr, merci à vous aussi, auditeuristes, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans deux semaines avec de nouveaux sujets. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM. Et je suis toujours aussi contente de pouvoir discuter avec vous pendant une heure. On vous a parlé durant cette émission de contraception. Anna nous a présenté l'univers artistique de Rosalia. Puis nous avons découvert l'histoire de Adrienne Bolland, une aviatrice et résistante française. Léonie nous a ensuite présenté Peau d'âme de Aude Zegelmeyer et nous avons discuté toutes ensemble de confiance en soi et des standards de beauté. Nous avons eu le plaisir de discuter avec ma maman qui est venue nous parler de son rôle de maman justement. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ça va, t'as passé
avec
un bon
plaisir.
Moment ?
Oui, ouais. Vraiment.
Tu reviendrais ?
Moi, oui, avec plaisir.
Trop bien. C'était trop chouette de t'avoir avec nous sur le plateau et tu as pu découvrir du coup l'envers du décor de mon activité.
Exactement, parce que je vous suis, hein, je vois des petits réels qui passent sur Insta, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est quand même plus sympa.
Ah bah, si vous voulez, auditeuriste, vous pouvez venir assister à l'émission dans le public. Il y a de la place, on est là pour vous accueillir, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre Instagram euuf-radio-g. On vous souhaite une très belle journée sur Radio G. Retrouvez Entre les pages ce soir à 17h. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles voix féminines, rendez-vous demain pour Elle chante la francophonie. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines à 13h. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram EEUF-Radio G. Et pour bien finir cette émission, on termine avec une dernière musique présentée cette fois par Emeline.
Alors la musique que j'ai choisie, c'est Bad Girls de Mia.
Ok.
Alors si vous vous rappelez, il y avait une traîne dessus il y a quelques années. Et vraiment, j'aime trop cette musique parce qu'elle me donne trop envie d'être une bad girl.
Ok.
Franchement, j'ai envie de faire une meilleure catwalk dans la rue quand j'écoute cette musique.
Waouh.
Donc bon, je vous laisse l'écouter et à bientôt sur Radio G.
On se retrouve très bientôt. Bisous. Let's die young bad girls, give it well. Fast die young bad girls, do it well. Live fast die young bad girls, do it well. Live fast die young bad girls.
get back, get down. Pull me closer if you think you can hide. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.
Radio G.